Jusqu'ici, tout va bien ? De Marie Collot aux éditions Alice Jeunesse. Quatrième partie. 15h. Cette fille est parfaite et elle débarque pile à l'heure, dans un jeans moulant qui me donne le tournis. On devrait l'arrêter pour excès de beauté. Avec elle, dans mon cachot, je veux bien passer ma vie derrière les barreaux. Les flics patrouillent, la main sur leur ceinture pour avoir l'air sérieux. Et la boulette les rejoint. De mon poste, je le vois entrer dans mon immeuble. J'aurais préféré que « Vide tes poches » prévienne mes parents de mon évasion, mais il a mieux à faire, on dirait. Amel reste debout à scruter les environs. J'ai son joli cul en gros plan. Peut-être le seul truc auquel j'aurai droit aujourd'hui, avec ces bâtards qui bousillent mon rencard. Elle s'impatiente. Elle vérifie son téléphone. Elle soupire. Elle n'est pas du genre à tolérer les retards et à se laisser marcher dessus. Avec son tempérament de feu, si elle pense que je lui ai posé un lapin, elle ne me pardonnera jamais. Je n'ai pas 2000 options pour m'en tirer. Que je sorte de ma cachette ou qu'elle s'en aille, c'est le fiasco assuré. Tout foire en 2 secondes, alors que je l'ai apprivoisé pendant des semaines, comme dans le bouquin avec le renard et les dessins de bébé. Un des seuls que j'ai feuilleté, avec Rimbaud. Si je ne trouve pas une solution tout de suite, elle mettra un point final à notre histoire avant qu'elle ait vraiment commencé. Amel ! Tout bas, je l'appelle. Cette scène est à des années-lumière de ce que j'avais imaginé. Et à la tête qu'elle me serre, c'est pareil pour elle. Qu'est-ce que tu fiches ?
Plus bas, il y a les flics.
Et alors ?
Dès qu'ils dégagent, je suis à toi.
Ah bon ? Pourquoi ?
Pour rien.
Qu'est-ce que t'as encore foutu ?
T'inquiète.
Je m'inquiète pas. D'ailleurs, qu'est-ce que tu veux que je te dise ?
Amel, s'il te plaît, t'énerve pas. Attends juste 2 minutes.
C'est trop.
Allez, c'est pas compliqué.
C'est toi qui compliques tout.
Mais non.
Parce que se planquer derrière un buisson, c'est normal ?
1-0. Ça sent le brûler. Et je bafouille autant que si je n'avais jamais appris à parler.
Amel, c'est pas ce que tu crois.
Je ne crois rien du tout. Tu te prends pour le prince charmant, mais t'es qu'un petit merdeux.
Franchement, tu t'es vu ?
C'est quoi ce costard de ringard ? Il y a encore l'étiquette.
Je ne trouve pas d'argument pour me défendre. Ce serait peut-être le moment de lui offrir ma rose, mais j'ai l'impression qu'elle me l'enfoncera au fond de la gorge. Et puis elle me tourne déjà le dos.
Amel !
Elle ralentit. Allez, Joseph, grouille-toi. Je me redresse pour lui prouver que je n'ai peur de rien, que le reste n'a aucune importance.
Amel, pars pas, je t'en supplie.
T'as le droit de compliquer ta vie, pas la mienne.
Je suis désolée.
Et en plus, tu t'excuses ?
C'est pas vrai. T'es encore plus minable que Raja. Lui, au moins, il joue au dur jusqu'au bout.
Amel, lâche-moi ! J'ai mieux à faire que traîner avec un pauvre type qui pue l'embrouille.
Amel, je suis amoureux de toi.
Elle sourit.
Ah bon ?
Ses yeux entrent au fond des miens.
Moi pas.
Et elle se casse. Je suis KO, atomisé en une phrase. Cupidon aurait dû lancer 2 flèches plutôt qu'une. La mienne me laisse une entaille bien profonde, une incision creusée en 1/2 seconde. Amel s'éloigne, le poing serré par la colère, déçue que je n'arrive pas à la cheville de ses espérances. Je me mets à pleurer, pile à l'instant où elle se retourne pour me jeter un regard méprisant. Et merde ! Elle l'a tellement mauvaise qu'elle hausse les épaules et se barre pour de bon. Je m'effondre et je chiale. Je chiale des tonnes de larmes qui étaient stockées je ne sais où. Je ne parviens pas à m'arrêter. Je n'ai qu'un cœur et 2 poumons. C'est trop peu quand on étouffe.
15h25. Ce matin, chaque seconde qui me séparait d'Amel comptait double. Depuis qu'elle m'a laissé tomber, le temps n'a plus d'importance. Je suis incapable de dire si je pleure pendant 10 minutes ou 100. Quand je relève la tête, la lumière du soleil m'éblouit sans se soucier de ma peine. Les manches de ma veste sont mouillées. Décidément, je ne serai jamais au sec aujourd'hui. Je suis aussi décomposée que si j'avais sauté dans le vide sans parachute. Et ça fait mal, très mal.
autant que la première gifle que j'ai reçue alors que j'étais trop petit pour me défendre. J'avais 7 ans. C'était en Pologne. Avant, mes parents retournaient à Kolbouchova pour les grandes occasions. Chez mes grands-parents, il n'y avait rien. Même pas une télé. Je m'ennuyais et je suis sortie me balader. Ma mère n'a pas moufté. Dans son bled, les voitures ne couraient pas les rues et il y avait peu de chances qu'une charrette tirée par un âne m'écrase en passant. Sur ma route, j'ai croisé un chien. Une boule de poils pareille à celle des mémés. Je me suis approchée pour le caresser. Il n'avait pas de collier. Il ne m'a plus lâchée, tout content d'avoir trouvé un copain dans ce trou du cul du monde. Il aboyait pour me le montrer. Parfois, il s'échappait dans les champs et revenait me surprendre par derrière. C'était sa façon de blaguer. On a joué comme ça longtemps. Il m'a suivi jusqu'à la maison et m'a attendu dans le jardin. Il s'est installé à côté de la niche de Hoynier, le mastodonte de mon grand-père. Juste assez près pour l'énerver, juste assez loin pour siester en paix. Il avait tout compris, ce clébard. Et pourtant, au milieu du déjeuner, j'ai entendu des bruits sourds dehors. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu passer le chien dans les airs, attaché à une corde. Ma mère m'a caché les yeux en poussant un cri. C'était trop tard. Au gémissement final de mon nouvel ami, j'avais compris. Mon grand-père lui avait tordu le cou. Ce salaud tuait les bêtes innocentes plutôt que de discuter avec sa fille. Pas étonnant qu'elle ait voulu une vie meilleure ailleurs. J'ai commencé à pleurer. Mon père mangeait ses roulades de viande au chou, comme si de rien n'était. Soudain, il en a eu marre que je sanglote. Il s'est levé et il m'a giflé. Cette claque, je ne lui pardonnerai jamais. Amel est encore plus rancunière que moi. Inutile d'espérer un jour rattraper la sauce. Elle racontera ce rancard minable à tout le quartier, histoire de me foutre la honte. Jamais 203. Bye bye Darius et Michel. Adieu Amel. Me voilà tout seul. Les autres ne font pas le poids, à part Ludmila. Et elle doit aussi se dire que je suis qu'un petit merdeux. Un gars qu'on gifle, qu'on trahit et qu'on jette à la poubelle. Comme ces chatons que j'ai trouvés sur un bout de trottoir. Quand je les ai vus pour la première fois, ils étaient en piteux état. Affamés et tremblants, ils tenaient tous les quatre dans mes mains. Hors de question de les ramener chez moi. Il n'y a que ma sœurette qui les aurait adorés. J'ai pris une couverture dans mon placard, des biberons taille poupée remplis de bon lait à la pharmacie et j'ai installé la troupe dans une boîte en carton, au calme, dans le local à chaudière d'un immeuble du coin. Depuis, je passe les nourrir tous les jours. Dès que j'arrive, ils rappliquent. Ils reconnaissent mon pas et mon odeur. Le blanc se frotte contre le bas de mon pantalon et grappille non-stop des câlins. C'est mon chouchou. Si je pouvais le garder, je l'appellerais héros. Cet après-midi, ils miaulent avant que j'ouvre la porte. Il est plus tard que d'habitude et ils m'ont attendu trop longtemps à leur goût. Ces matous sont peut-être les seuls à s'inquiéter de moi. Eux, ils s'en fichent de mes conneries, tant que je suis là pour leur donner des caresses. Et quelques croquettes, je sais. Je ne suis pas naïf à ce point. N'empêche qu'on peut toujours compter sur ces bestioles. Ce n'est pas pour rien que la plupart des clodos les préfèrent à la compagnie des humains. Je dépose la bouffe dans leur gamelle et je m'assieds à même le sol pour les observer. Ils dévorent, se bousculent et nettoient leurs écuelles mieux qu'un lave-vaisselle. Pour digérer, ils se couchent sur mes jambes et ça ronronne ferme. Si je suis leur frigo, ils sont mes calmants. C'est presque aussi efficace que le shit. Adossé au mur, je me détends un peu. J'essaie de me vider la tête. Pas simple. Chaque détail me rappelle Amel. Quand je suis venue ici avec elle, on a bercé les chatons dans nos bras. Et elle a chanté avec sa jolie voix. Le tigré lui léchait les doigts, le vénard. Enfin, pas autant que ça, en fait. C'est le seul qui ne tient pas la forme. Il s'est blessé avec un morceau de verre qui traînait par terre. Mais il s'en sortira. Il paraît que ce qui ne tue pas rend plus fort. Je voudrais voir la vie en multicolore, mais j'ai des idées noires plein la tête. Je continue à retourner ce qui s'est passé de gauche à droite et dans des directions qui n'existent pas. Les chatons ne sont pas parvenus à me consoler. Dès que je les ai quittés, cette envie de vomir est revenue au fond de ma gorge. Et être triste, moi, ça me met en colère.
Si je laisse ma rage monter, je peux faire n'importe quoi et bonjour les dégâts. Le premier qui s'en mangera une de malade, c'est Darius. Tout est de sa faute, au final. C'est lui qui a foiré pendant le braquage. Il ne s'arrête jamais à temps. Son geste de trop est à la base de cette enfilade d'emmerde. Bousiller l'étalage de l'épicerie, ce n'est pas nécessaire quand on a déjà la caisse en poche. On n'est pas dans un Tarantino. Je suis tellement vénère que je décrocherai un rôle dans son prochain blockbuster. Mais Hollywood, c'est pas pour tout de suite. Pour me venger, j'attendrai l'occasion idéale. J'ai une mémoire de dinosaure et ce qui compte, c'est de régler ses comptes, justement. Dans l'immédiat, je dois renflouer mes caisses. Facile. Depuis que je suis sans collège fixe, j'observe les allées et venues des gangsters du quartier. C'est la meilleure école qui soit. J'ai découvert des tas d'astuces à force de regarder comment ils gèrent leur business et où ils planquent leur argent. Ils ont plusieurs cachettes, histoire de ne pas tout perdre s'ils se font attraper. Pour les grosses prises, ils utilisent des coffres, mais pour les affaires courantes, ils se contentent de lézardes dans les murs, de dessous de pavés ou de plaques d'égout. Ils s'en fichent qu'on repère ces endroits top secrets. Ils savent que personne ne piquera leur thune. Pour oser, il ne faut pas tenir à ses fesses. C'est mon cas. Je vaux moins que Raja. Je vaux moins que Raja. Tu te trompes, Amel chérie. Je n'ai peur de rien et je vais te le prouver. Je déteste qu'on me résiste. C'est une de mes rares ressemblances avec mon père. Il voulait que je sois un dur. Avec ses gifles, il a réussi. Au moins une victoire dans sa pauvre existence de maçon. Le béton armé, c'est de la pâte à modeler à côté de moi. Dans la ruelle à côté du snack de Chiki, il y a un muret décoré de lierre où les frères d'Amel et leurs potes s'assoient en soirée. À 7 heures de l'après-midi, ils ne sont pas dans le coin. Je m'enfonce dans cette rue aussi étroite qu'une balafre. Personne. Je m'approche pour soulever la grappe de branche la plus longue et je tire sur le bout de papier coincé entre deux briques. Quel talent! Je glisse l'enveloppe à l'intérieur de mon veston et je prends mes jambes à mon cou. Ce n'est plus le moment de zoner par ici. J'ai décroché le pactole. Je parie qu'il y a 10 fois plus de billets que dans le tiroir caisse de ce matin. De quoi oublier les soucis et la tristesse et rester à l'abri quelques jours. J'ai les flics aux trousses. D'accord, c'est un grand mot, mais se prendre pour un bandit, ça soulage les grands mots. 16h03. À hauteur de l'ancienne station-service, j'aperçois Amel. Je l'ai matée tant d'heures d'affilée que je la reconnaîtrais entre 1000, même les yeux bandés. Elle avance dans ma direction avec Raja qui la tient par le bras. Il n'a pas l'air de bonne humeur. Et sur mon front perle déjà une goutte de sueur. 16h05. Les sales coups aident souvent à avoir les bons réflexes. J'entre dans la station-service avant de croiser Amel et son frère. Aucune chance qu'ils me repèrent ici. Le lieu est abandonné depuis des années et ses murs tagués font tellement partie du décor que plus personne n'y prête attention. Le panneau à vendre déteint n'invite aucun acheteur à le visiter. Certains pensaient que le bâtiment serait démoli. Que dalle. Il faut des lustres pour remplacer les poubelles défoncées du quartier, alors pour abattre des immeubles. Amel et Raja passent à hauteur de la vitre fendue derrière laquelle je les observe. Il a les sourcils froncés et les beaux yeux de sa sœur sont rivés par terre. Il l'engueule comme du pu, soi-disant qu'elle traîne trop dehors, qu'elle fricote ça et là, alors qu'elle devrait plutôt aider sa mère. Un macho de première, ce type. Dès qu'Amel essaie de répondre, il lui dit de la boucler et elle lui obéit. Tout à l'heure, elle avait plus de répartie. Je voudrais la défendre, la délivrer de ses mains qui l'enserrent, l'emmener là où elle pourrait vivre sans surveillance et sans sermon. Impossible. Je n'ai pas de cheval blanc et pas le courage suffisant. De toute façon, même si les contes de fées existaient, elle ne monterait plus en selle avec moi. N'empêche, ça me soulage de la savoir là, à quelques mètres sans qu'elle soupçonne ma présence. Ce drôle de réconfort, j'aimerais qu'il dure. Pas de chance. Amel est déjà hors de vue. J'espère que Raja ne va pas au muret, qu'il a juste envie de manger un kebab ou de trafiquer 3 rues plus loin. J'espère aussi qu'Amel repassera bientôt en sens inverse. Je reste près de la fenêtre pour guetter son retour. J'ouvre l'enveloppe et je compte mon pognon. Waouh ! Je pourrais m'offrir un billet pour l'autre bout du monde.
les Seychelles ou New York pour changer de la Pologne. Rien qu'à m'imaginer sur une plage de sable fin ou au pied de la statue de la Liberté, mon moral remonte. Un tout petit peu. Sans mes papiers, adieu l'avion et les cocotiers. Je suis coincée ici à déprimer. Et l'ambiance dans cette station-service en rajoute. Humidité, pénombre et saleté. Les squatteurs de l'hiver dernier ont laissé des traces de leur passage sur le sol crasseux. Deux matelas où des bestioles se sont installées, une couverture, des cartons, des casseroles rouillées et des canettes par dizaines. Je ne me suis pas enfuie du commissariat pour me cacher dans une pièce qui pue la pauvreté. Si Amel n'est pas de retour dans un quart d'heure, je décampe de cet endroit où même les gars les plus paumés de la terre ne méritent pas de dormir. Je ne poirote pas longtemps pour la revoir. Elle rapplique avec Raja, encore plus excitée qu'elle allait. Il lui a lâché le bras parce qu'il hurle dans son portable en gesticulant comme un taré. Il s'arrête pile en face d'un ancien réservoir de gasoil et Amel continue son chemin. Je m'accroupis de justesse. Le son est tellement fort que l'image n'est pas nécessaire. Au moindre faux pas, je suis mort. Au sens propre. Je regrette de m'être attaqué à plus fort que moi. En plus des flics, maintenant, j'ai sûrement Raja et sa clique au cul. Je suis surdoué niveau emmerde. J'attends sans bouger jusqu'à ne plus rien entendre. Sauf un bruit trop proche. Mon pouls a battu des records de vitesse aujourd'hui. Mais là, il explose son score. Je me rue sous la couverture posée sur le matelas à l'autre bout de la pièce. Je l'aurais pas touché du petit doigt sans cette situation critique. Je chope un carton que je place au-dessus de ma tête. Je me recroqueville. J'ai l'impression d'être un enfant de 6 ans qui se croit à l'abri des voleurs sous sa couette. Je prends le morceau de verre que j'ai glissé dans ma poche à l'hôtel. Je bloque ma respiration. Enfin, j'essaie. La porte s'ouvre si violemment que je sursaute. Saloperie de réflexe. Ma vie est bientôt finie. Des conneries qu'elle défile avant de mourir. Il n'y a rien sur ma bande, à part l'attente du moment fatidique. Et ça dure, histoire que mes dernières secondes soient insoutenables. Il marmonne, il soupire et déplace des affaires à gauche, à droite. Il s'assied à côté de moi. C'est tout. Je ne sais absolument pas quoi faire. On se croirait dans un sketch de mauvais goût. Soudain, je sens une main sur mon dos. Je bondis. Je n'ai plus qu'à me défendre. Je serre les poings avant de réaliser que c'est inutile. Putain, tu m'as fichu la trouille ! J'ai devant moi Pascal avec son froc trop large et ses bottines trouées. Le con, il se marre autant que d'autres se saoulent. Il ne parvient pas à se ravoir. Le rire, ça le sauve un instant de la misère de la rue. La ferme ! Mes nerfs sont trop à bout pour tolérer sa bonne humeur. Ta gueule ! On va être repérés ! Je retourne à la fenêtre. Plus de traces de Raja. Quelqu'un t'a vu entrer ?
Oh, ta tête !
C'est reparti.
Mon SCF chéri.
Il enlève son chapeau et met sa bouche en cœur pour m'envoyer des baisers, en se poilant, bien sûr.
Je suis content de te voir. Eh, t'es beau dans ton costume.
Il me siffle comme si j'étais la plus belle meuf du quartier. Il m'attrape par les épaules, mais je me dégage. J'ai pas envie qu'il me colle un bisou. Sa dernière douche remonte à un bail. Ses doigts sont plus crades que ceux de mon père après une journée de boulot, et ses ongles vernis de poussière sont aussi longs que ceux d'Amel. Pascal, lâche-moi. Allez, je me casse, sinon je vais m'énerver.
Attends, attends. J'ai un truc pour toi.
Il fouille son sac en plastique froissé et en sort une plume de pigeon. Il me la montre et me caresse le nez avec. Je lui arrache des mains et je la jette. C'est plein de maladies. Et ma nervosité ne supporte pas les chatouilles.
Mais enfin, elle t'a rien fait, cette plume.
Il la ramasse, la tourne dans tous les sens et la glisse derrière son oreille. Il me regarde de ses grands yeux bleus délavés et prend une inspiration profonde.
Un jour...
Oh non, Pascal, pas maintenant. J'ai pas le temps.
Pour une fois que j'ai de la bonne compagnie. Les autres, tu sais, je les aime pas. Ils comprennent pas. Ils me font chier, ils veulent que je la boucle. Des idiots. Jamais je me tairai, moi. Jamais, tu m'entends ? Jamais.
Oui, t'excite pas.
Où j'en étais déjà ?
Nulle part. Je me dirige vers la porte abîmée derrière laquelle j'ai pas mal de trucs à craindre.
Tant pis. Je me suis pas échappée du commissariat pour me les geler dans une station-service en endurant les longs discours d'un gars qui vit sur le parking d'un supermarché.
Pars pas, s'il te plaît. Attends la fin de mon histoire.
Il prend son air de clodo abandonné par le monde entier et plisse son visage vieilli par trop de nuits dehors.
Après, je te laisse tranquille.
Juste une alors, et en vitesse. Je me poste à nouveau à la fenêtre pendant qu'il débite son baratin. Pascal, c'est un mytho. Il invente n'importe quoi et il prétend que c'est la vérité, que ses histoires, il les a vécues, promis juré craché. Il envoie même un gros molar par terre pour le prouver.
Un jour, à côté de moi, il y avait un homme qui parlait à personne. Il avait mis devant lui une pancarte « Je ne boirai pas votre argent ». Et il restait là, sans rien dire. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein, pour gagner un peu de fric? On a le droit de boire un coup quand on en a envie, non? Ils se croient tout permis, les autres. Bande d'égoïstes. Donc, le type avec son panneau, il gardait son pognon. Jamais il ne le dépensait. Il économisait pièce par pièce. Et figure-toi qu'un matin, il s'est ramené avec un oiseau. Oui, t'as bien entendu, un oiseau. Un perroquet. Ça coûte un pont, ces bêtes-là. Je m'en souviendrai toujours. Il était perché sur son épaule avec sa longue queue bleue. Le gars, il crevait de faim et il avait acheté un perroquet. Churchill, il l'avait appelé. Et tiens-toi bien, Churchill, il parlait. Une vraie pipelette. Un peu comme toi. Pire, dès qu'il avait un auditoire, il ne s'arrêtait plus. Il connaissait les slogans publicitaires et ça plaisait aux passants. Les pièces tombaient et tombaient pendant que Churchill criait « Sale vendu! Vous mourrez congelés! Captain Igloo, c'est la folie des enfants !» Les gens riaient. Ils sont tellement cons. Ça a continué comme ça un petit temps. Puis, l'homme au perroquet a disparu. Il avait fait fortune, j'en suis sûr.
Pascal avance vers moi, avec un air solennel qui annonce la fin du spectacle. Je continue à compter les voitures. 3 vertes, 1 rouge, 8 bleues et les noires qui explosent le score.
En conclusion, Joseph, le silence est d'or, mais la parole est de platine. Surtout si c'est celle d'un ami.
Il écarte les bras et attend des applaudissements que je n'ai pas l'intention de lui offrir.
Je voudrais vraiment un oiseau.
Un oiseau? Il te chierait dessus.
T'as rien compris à l'histoire.
Sûrement parce qu'il n'y a rien à comprendre.
J'ai connu un gars qui...
Pascal, ça m'intéresse pas.
Et j'ai plus important sous les yeux. Louis et Guy traversent la rue. Pas des enfants de cœur, eux non plus. Si tous les potes de Raja appliquent, je ne suis pas sortie de ce trou pourri.
Sa mère? Sa mère à qui, mon petit?
Quoi?
De la mère de qui tu parles?
Mais de personne.
Hein?
Ce mec est tellement loin qu'il a oublié les insultes de base.
La ferme?
Mais enfin, de quoi t'as peur?
D'eux, là-bas.
La tête qu'il tire me confirme qu'il a déjà eu affaire à ce duo de choc.
Il te cherche?
Peut-être. Pascal empoigne son sac en plastique.
Je préfère la paix à la guerre. Tu m'excuses, mais ciao.
Non, tu vas attirer leur attention.
Il hausse les épaules et poursuit son chemin, comme Amel.
Mon vieux, si tu passes cette porte, je te...
Tu me quoi?
Je te fracasse, ta sale gueule d'ivrogne.
C'est ça.
Mon poing se retrouve dans sa mâchoire avant qu'il l'ait vu arriver. Pascal s'assied sur son matelas en se tenant la joue.
Il se tait. La violence, c'est la méthode la plus efficace pour obtenir ce qu'on veut. Mon ventre se crispe à l'idée d'être repéré par ces caïds. Je respire, je me raisonne. Personne m'a vu piquer ce fric. Personne ne sait que je suis ici. Patience, ils vont bientôt dégager et je m'enfuirai.
De son côté, Pascal reprend du poil de la bête.
Tu pouvais pas me le demander gentiment?
Ça va, j'ai pas frappé fort.
Et alors? C'est pas la douleur qui compte, c'est le geste.
Tu me gaves.
Excuse-toi.
Tu rêves.
Tu te sers de tes poings parce que t'es faible.
Ah ouais?
Ma main est levée à quelques centimètres de lui, prête à lui en remettre une.
Ouais, regarde.
C'est toi qui m'oblige à employer la force.
Ceux qui crient le plus fort n'ont souvent rien à dire.
Arrête avec tes citations. J'ai pas de leçons à recevoir d'un type qui vit dans une pièce désaffectée.
Tu te trompes. Je suis bien placée pour savoir qu'à chercher la merde, on finit par manquer de papier toilette.
J'avoue, celle-là, j'aurais adoré la trouver.
17h13. Tu donnes un doigt, on te prend un bras. Moi aussi, je suis capable d'inventer des phrases à graver sur le mur des chiottes. Pascal continue à me raconter ses histoires hautes en couleurs en observant les allées et venues à la fenêtre. Il a accepté de prendre la relève quand je lui ai murmuré des excuses, accompagné de 3 gros billets. Ce petit cadeau a suffi à ce qu'il me pardonne et me promette de m'avertir si quelqu'un approchait de la station-service à laquelle personne n'a prêté attention jusqu'ici. Normal, il ne faut pas compter sur les flics et les crapules pour être futé.
C'est bon, il n'y a plus personne. Ça fait un moment, mais j'ai oublié de te prévenir.
Pascal me lance un clin d'œil. Il a profité un max de mes oreilles de mauvaise graine. Je ne lui en veux pas. Ces bobards m'ont changé les idées. Ils ont mis quelques minutes entre parenthèses les mots durs d'Amel. Je retourne à la vitre pour vérifier que la voie est libre.
T'as pas confiance, mon petit ?
Exact. Depuis ce matin, je me méfie de tout le monde.
C'est dommage de compter sur personne.
Je peux toujours compter sur ça. Je sors les liards de ma poche et je lui passe sous le nez en rigolant.
Ah, je comprends qu'ils te courent après.
Tracasse, ils en ont à la pelle dans leur coffre.
Tu vas t'acheter un perroquet ?
Il sourit et s'approche pour regarder mon butin de près, lui qui n'est habitué qu'à la monnaie.
Pas touche ? Je suis pas un voleur, moi. Et je saurais pas comment dépenser un tel pactole.
Tu rigoles ? Tu pourrais piéter à l'hôtel, manger au resto, picoler du bon vin.
On m'accepterait nulle part.
Ouais, faudrait d'abord te relooker.
Quelle horreur. Non, j'ai besoin de rien. Mais toi, tu vas en faire quoi?
Partir, je pense.
Partir?
T'es bouché?
Non, pourquoi?
Il est vraiment à la masse, ce mec.
Pour toujours?
Le temps que mes affaires s'arrangent.
Où ça?
Je sais pas. Là où ils me trouveront pas. L'avenir, je ne connais pas son adresse et je n'ai pas envie de la chercher sur une carte. Je n'ai jamais emprunté de voie toute tracée, sauf celle dessinée par mes pieds sur le pavé, minute après minute.
Et la petite ?
Ludmila ?
Non, celle que t'aimes bien.
Comment t'es au courant ?
Je vois tout d'ici.
Je croyais que tu logeais au supermarché.
Impossible, les gardiens nous chassent. Donc tu vas te barrer sans ta belle ?
Ouais. J'ai merdé et elle m'a jeté.
Elle reviendra peut-être sur sa décision, non ?
Non.
Tu te décourages vite, mon petit. Écoute,
garde tes conseils pour toi.
Ma femme aussi.
T'as une femme ?
J'avais. Et j'en ai soulevé des montagnes pour elle. Si t'es incapable de faire pareil pour la tienne, c'est que tu l'aimes pas assez.
N'importe quoi.
Ton ami, il part avec toi ?
Mon ami, tu parles.
Fini les inséparables ?
Il m'a balancé à la police pour sauver sa peau.
Oui, qu'est-ce que tu lui as fait pour mériter ça ?
Aucune idée et je m'en tape.
Tu t'en tapes de tout, toi ?
À fond.
Enfin, c'est ce que tu crois.
Pascal, il se prend pour le vieux sage des films de kung-fu. Tout ça parce qu'il a la même barbe. Pascal, salut.
À la prochaine, mon petit.
Je l'abandonne à sa solitude, mais il m'emboîte le pas. Pascal, j'ai pas du tout envie que tu viennes avec moi.
Et moi donc ? T'es insupportable.
Qu'est-ce que tu fiches alors ?
Je vais à l'animalerie pour mon perroquet.
Sérieux ?
Et comment ?
L'argent fait quand même le bonheur. Les rêves aussi. Dis Pascal, tu préférerais pas des chatons ?